Quand je me suis retrouvé là-bas devant ce vide de cette parole et avec un sentiment d'impuissance terrible, je me suis dit, il faut oser une parole, mais une parole qui soit juste. Et pour cela, il faut que je le fasse avec d'autres et pas seulement seul. Il faut qu'il y ait à la fois des Africains engagés sur le terrain, des Africains aussi qui ont des responsabilités dans l'Église, et puis faire venir des gens d'Europe qui ont une certaine expertise et qui ont une distance par rapport à cela. Donc c'est un groupe très diversifié dont l'objectif était de se mettre à l'écoute de ce que disent et de ce que vivent les gens qui accompagnent et qui accueillent, pour à partir de là, essayer d'oser une parole de consolation ou une parole d'interpellation. Alors la première semaine, nous avons fait le tour des lieux les plus importants d'accueil des gens fragiles et des gens blessés. Et ce qui me paraissait très important, c'était de m'adresser aux personnes qui accueillaient, mais non pas pour leur demander des statistiques ou le tel type de thérapie qu'elles utilisent, mais comment vous, parce qu'ils sont tous croyants ces gens-là, en tant que chrétien, arrivez-vous à vivre cette réalité qui dure depuis plus de 15 ans ? Avoir défilé de vous des gens détruits par l'horreur, qu'est-ce que vous arrivez à leur dire? En quoi est-ce que votre foi chrétienne est touchée? Comment est-ce que vous voyez que la foi de ces gens-là ou leurs croyances traditionnelles sont atteintes par ce qu'elles ont vécu, etc. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les gens que nous sommes allés rencontrer avec ces questions-là nous remerciaient énormément d'être venus en nous disant « Personne ne s'intéresse à ce que nous vivons et c'est la première fois qu'on nous pose ces questions. »
Vous voulez dire qu'il y a quand même de leur part un certain désarroi?
Exactement. Parce que quand je leur ai dit « Nous venons vous rencontrer parce que nous pensons que l'Église devrait dire une parole plus forte aux victimes », pratiquement tous ont répondu « Mais nous n'attendions que cela de l'Église ». L'Église dénonce, mais elle ne participe pas suffisamment à une parole qui rejoint les gens. Il y a des lieux d'écoute, il y a des commissions justice et paix qui essayent de faire du travail, mais je pense qu'il y a un travail de fond, en profondeur et de façon plus large que l'on pourrait faire. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que on est mal à l'aise par rapport à une parole chrétienne. C'est pas assez clair, je trouve. Et surtout sur le plan communautaire. Je crois qu'individuellement, il y a des gens qui disent des paroles justes. On console la personne, on essaye de l'aider. Par exemple, quand je demandais aux accueillants, quand on parle de volonté de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Immédiatement, elles disent non, on ne peut pas être d'accord avec ça. Alors qu'en Afrique, pratiquement, dès qu'il se passe quelque chose, on dit ah ben c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc on voit bien que les accueillants, après avoir vu tout cela, ne sont plus dans ce fatalisme-là. Mais ils sont dans le désarroi, parce qu'ils se disent quand même à certains moments, Dieu où est-il, voyez? Et ce qui est important de pouvoir leur dire, c'est que le Seigneur comprend leur désarroi, comprend qu'à certains moments, ils lui en veulent parce qu'il n'agit pas comme il le souhaiterait. Et toute la Bible est remplie de gens, que ce soit Job, que ce soit les prophètes, certains psaumes, où on dit « Mais Seigneur, où es-tu? Fais ton boulot. Enfin, tu vois bien qu'on est en train de mourir. À quoi ça sert que moi j'aille à la fosse ?» Enfin, et ça, c'en est plein dans l'Écriture. Et c'est pour ça que je disais, ne vous culpabilisez pas de cela, mais croyez que le Seigneur qui vous entend, eh bien, il agit tout de même. Il va mettre aussi les gens que vous rencontrez qui viennent vous aider. C'est aussi le Seigneur qui vient vous rejoindre. Après cette semaine-là, nous nous sommes retrouvés ensemble pour partager ce que nous avions envie de dire, après avoir entendu tout ce que nous avions entendu et lu pendant un an tout ce qu'on avait lu. Et il nous est venu l'idée, nous pourrions écrire des lettres. Alors, il y en a une qui a écrit une lettre aux femmes violées, par exemple. Une autre lettre adressée au mari qui hésite à recevoir sa femme et ses enfants. Une autre lettre au bourreau. Une lettre à Dieu, pour dire qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe, etc. À côté de ça, il y a également, on a partagé ensemble des démarches qu'on pourrait faire en communauté, formation de la communauté et sensibilisation à l'accueil des victimes, faire de la prévention, etc.
Comment se présentent ces communautés? Comment est-ce qu'elles peuvent agir, par exemple?
Dans les régions où nous sommes, ils sont organisés en communautés de base, qui sont des communautés de village ou de quartier. Donc des petits groupes qui se réunissent toutes les semaines et qui regroupent 20-30 familles. Et régulièrement, ils font des lectures d'évangiles et puis ils font aussi de la visite des malades, etc. Mais on s'est dit, il faut sortir d'un simple travail de compassion, ou en tout cas d'une compassion qui ne soit pas, qui soit solidarité, qui ne soit pas simplement pitié, si vous voulez. Il faudrait aussi véritablement que la communauté change son regard sur les gens et ne soit pas dans la honte ou dans le rejet ou dans la stigmatisation. Et qu'il puisse aussi s'accompagner d'une parole prophétique dans le sens de la dénonciation, par exemple, de la stigmatisation des femmes, des enfants, des victimes, etc. Donc là, on leur propose un certain nombre de démarches, également pour protéger les femmes et les droits des femmes et des enfants. Et alors, un troisième volet de ce que nous avons réfléchi et proposé, ce sont des textes plus théologiques sur la souillure, sur la volonté de Dieu, sur la dignité, des thèmes pour aider ces communautés à clarifier un petit peu. Aussi sur la conscience, parce qu'il y a le problème d'adolescentes qui ont été violées, qui sont enceintes, qui se posent la question de que faire avec cet enfant, avec bien sûr la règle très claire de la part de l'Église que de toute façon il faut le garder. Mais il y a des personnes qui, après avoir vécu ça, sont dans une situation où elles n'arrivent pas à accepter cela. Donc il y a un travail à faire sur le respect aussi de la conscience de cette personne.
Sur comment est-ce que je vais accepter cet enfant qui n'est pas le mien, enfin qui est né du viol.
Oui, et éventuellement, si je ne peux pas l'accepter, et pour finir, j'ai posé un acte de mort quelque part, eh bien je puisse quand même être accueilli avec mon désespoir. Parce que, quelle que soit l'issue, c'est une situation excessivement dramatique. Ou bien d'avoir cet enfant qui rappelle continuellement le visage du violeur, ou bien ne pas l'avoir gardé. Et avec l'amour de la vie qu'on a là-bas, c'est quand même cette honte d'avoir posé cet acte-là. Et quand vous avez 12, 13, 14, 15 ans, vous vous rendez compte et vous pouvez porter ça toute votre vie. Donc si la communauté n'est pas là à côté pour accompagner, il y a plein de gens qui se promènent avec des problèmes moraux épouvantables où il n'y a pas de lieu où en parler.
Et les victimes, on imagine qu'elles aussi, elles ont besoin de cette parole.
Ce sont des sociétés où tout de même la notion de virginité est quelque chose de très fort, la notion aussi de fidélité de la femme à son mari. Et ce qui est symptomatique, c'est qu'à certains endroits, le premier geste de la femme qui avait été violée, c'était d'aller se confesser. Parce que, bien sûr, comme on l'a constaté en Occident aussi, quand on est violé, souvent on a des sentiments de culpabilité. Ensuite, sans doute parce qu'elles se sentaient quelque part coupables, mais peut-être aussi parce qu'elles avaient besoin de pouvoir parler à quelqu'un confidentiellement, et que peut-être dans le sacrement de la réconciliation, elles recevaient comme une libération, une déculpabilisation, je ne sais pas. Mais cette attitude spontanée d'aller plutôt vers le prêtre pour cela est aussi un appel au prêtre d'avoir une attitude et une parole très juste. Et là, je crois qu'on est mis au défi d'un infini respect de la douleur et du drame, quelle que soit la décision prise par la femme. Certaines personnes sont capables de dire une parole. Ce sont les chrétiens les plus engagés, les plus ouverts. Mais l'ensemble de la communauté chrétienne, les paroisses... Moi, j'ai demandé, est-ce que vous entendez parfois parler de cela pendant une homélie? Et c'est un sujet qu'on n'aborde presque pas, vous voyez. Or, le fait qu'il y ait une banalisation du viol, même dans la société civile, et dont on sait très bien que j'ai eu des récits de gens qui sont des hommes d'affaires catholiques, etc. Alors, ce sont des choses qu'on ne dit pas dans les homélies. Mais je crois qu'il y a un moment où il faut nommer les choses, même s'il y a un frémissement de malaise un moment, mais il y a aussi un frémissement de soulagement qu'on ait osé nommer l'horreur, voyez, et de dire que ce n'est pas ça la volonté de Dieu, et que l'impunité n'est pas la volonté de Dieu.